Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Il fait beau en ce 9 mai 1998. Mes invités étaient alors jeunes, beaux aussi, et enjoués par un épilogue qui s'annonçait exaltant. David Berger, 28 ans à l'époque, danse encore sur les tubes de Patrick Hernandez. Même il y a 20 ans, vous avez 10 ans de retard, David.
Ça traverse les décennies, Patrick Hernandez.
Geoffroy Garretier n'avait pas encore inventé son stathoscope, mais ses analyses étaient déjà ciselées et empreintes de la sagesse de ceux qui en ont déjà vu pas mal. Bonjour, Geoffroy.
Bonjour, mais vous allez voir que non. Je vais vous raconter une anecdote qui vous prouve que pas du tout.
Puis l'infernal Stéphane Guy est avec nous. Stéphane, vous étiez déjà à Canal.
Je rêvais du destin de David Berger à l'époque.
Il rêve toujours. Hein. Vous étiez où ce 9 mai 98 ?
Je fêtais l'anniversaire de ma sœur. Elle avait 28 ans.
Joyeux anniversaire à elle. Je disais, messieurs, qu'un soleil radieux illuminait le foot français en ce 9 mai 98. Mais pas seulement parce qu'un mois plus tard, l'Hexagone accueillera sa deuxième Coupe du Monde. Non, l'engouement que connaît la France du foot est plus prosaïque.
Dans deux heures maintenant, nous saurons enfin qui est le champion de France entre Lens et Metz.
Vous en souvenez de cette soirée? Vous vous en souvenez vraiment de la tension qu'il pouvait y avoir entre Lensois qui jouait à Auxerre et Messin qui jouait contre Lyon, Geoffroy?
Non, mais c'est surtout l'attente du public lensois, qui est donc déjà à l'époque est considéré comme le meilleur public de France, et d'ailleurs à juste titre. Et ce club, qui est un monument du foot français, n'a jamais été champion. Voilà. Alors Metz non plus, mais Metz n'a pas le même statut dans l'imaginaire collectif français que Lens.
En début de soirée du 9 mai 98, date de la dernière journée, l'identité du champion domestique n'est pas encore connue. Lens et Metz s'affrontent à distance dans un duel au soleil. Nordiste et Lorrain peuvent tous deux être sacrés champions. Quelques semaines plus tôt, Lens est revenu dans la course au terme d'une rencontre maîtrisée chez le leader messin. Anto Dromniak et les Lensois ont battu les Lorrains 2-0. Le doublé de l'attaquant yougoslave a permis à Lens de prendre les devants du championnat. Lens possède 2 points d'avance et une différence de but favorable sur Metz. C'est donc en chassé que les Sang et Or débarquent à Auxerre, champion 2 ans plus tôt. Et pour cette ultime bataille, leur public a été inventif pour les accompagner.
Énormément de Lensois. Le quota normalement c'était environ de 400 places pour les Lensois, mais tellement malins les 100 heures, ils ont trouvé des places un petit peu partout et on ne sait pas trop comment. En tout cas, ils sont partout dans le stade et ils ont été chaudement accueillis par les supporters au Serrois. Il y a une ambiance de vraie fête du football.
C'est une époque qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, Stéphane. Lens et Metz qui peuvent être tous les deux sacrés champions.
On est dans une époque où le football français est très éclaté. Il n'y a pas, comme aujourd'hui, un club dominant, comme il y aura quelques années plus tard avec Lyon, un club dominant. On est dans une époque des années 90 où chaque année, le champion de France est un nouveau venu. On a eu, depuis l'épopée de l'OM, Paris champion, Auxerre champion, Nantes champion,
Monaco
champion. Donc chaque année, il y a un nouveau champion. Alors c'est vrai que là, on a affaire à un club atypique, puisque lui, il ne l'a jamais été. Ce que je citais précédemment, à l'exception d'Auxerre, l'avait déjà été. Lens est un nouveau venu. Et Lens est un club jeune en première division. Je crois qu'ils ont 6 ou 7 ans de D1 derrière eux depuis leur remontée, pas plus.
David Berger.
C'est un petit peu comme si cette année on vivait un duel pour le titre entre Montpellier et Saint-Etienne, par exemple. Parce qu'il y avait quand même Marseille, il y avait Monaco, il y avait Paris qui a été vite décroché dans cette saison. Mais ce qui est fantastique, on en rêve tous d'une dernière journée comme ça. Parce qu'il y a effectivement ce duel à distance entre Lens et Metz, mais il y a aussi le duel à distance pour la Coupe de l'UEFA entre les adversaires de Lens et Metz, c'est-à-dire donc
Lyon,
Auxerre et Lyon.
Qui luttait, à Metz,
voilà,
et Auxerre qui accueille Lens.
Voilà, celui qui faisait la meilleure opération était basculé en Ligue Europa, l'autre en Coupe Intertoto. Enfin, vous vous rendez compte, on se battait pour essayer de se qualifier en Coupe de l'UEFA.
Dans une saison quand même, je regardais ça, c'est assez incroyable, il y avait 18 équipes à l'époque.
Première fois.
18 équipes, il y avait 9 équipes en Coupe d'Europe. 9 équipes en Coupe d'Europe sur
la France,
les 18.
Dominait l'Europe.
Voilà, c'était un chemin de croix quand même quand on allait en Intertoto.
Oui, bien sûr.
Pour
enfin, voilà, c'était pas pire que de faire les tours préliminaires d'Europa League aujourd'hui.
Ouais. C'est aussi une année, juste pour replacer le contexte, où On vit encore, c'est la fin d'une époque puisque l'arrêt Bosman n'a pas encore fait tous ses ravages. C'est-à-dire que les meilleurs joueurs français sont déjà partis jouer à la Juventus, le cas de Zidane, etc. Mais on est encore compétitif puisque cette année-là, Monaco va aller en demi-finale de la Ligue des Champions. Et c'était une tradition des clubs français depuis maintenant Marseille, une décennie plus tôt. Et en fait, c'est l'année qui va tout changer, puisque ensuite, on ne sera plus du tout compétitif. Les places des Français en demi-finale, en tout cas en C1, seront, on va dire, assez rares.
Et dans le prolongement de ce que dit Geoffroy, les clubs français ont très peu d'étrangers. Vous parliez des équipes de Lens et de Metz. Il y a 2-3 étrangers, 3-4, pas plus par équipe.
Alors, Lens a 10 joueurs formés au club. Aujourd'hui, voilà, des 10 joueurs formés au club qui participent à un titre, ou en tout cas luttent pour le titre. Bon, ça existe
plus. Et Metz, pareil.
Et il y en a un qui a énormément participé à ce titre. On y viendra, bien sûr. Ils sont soutenus, les Lensois, vous l'avez entendu, car le moment est historique. Vous l'avez dit, messieurs, ils peuvent soulever le premier titre de champion de France de leur histoire. Soutenus aussi, car la bande à Daniel Leclerc dispose de 2 points d'avance sur le chasseur Metz, qui, dans le même temps, accueille Lyon.
Avec Olivier Rouillet, on va suivre ce match. Il est à mes côtés. Un match très, très important, Olivier, pour des Messins qui ont vraiment une boule dans le ventre ce soir.
Oui, je crois qu'ils ont une boule dans le ventre, mais ils sont surtout très heureux d'être là ce soir. Et aller voir tout à l'heure et avoir Joël Müller, ils vont tout faire pour remporter ce titre de champion.
Tout ce petit monde doit gagner Lens et Metz pour être sacré, bien sûr. Auxerre et Lyon, leurs adversaires pour jouer l'Europe la saison suivante. Les impartiaux, ceux qui rêvent d'un scénario fou pour égayer leur dernière soirée, ne sont pas déçus. 14e minute, en Lorraine, le Messin Bruno Rodriguez marque le premier but de la partie.
Attention Olivier avec cette tête d'Uras qui remet Rodriguez en jeu, c'est le but. Ouverture du score ici au Football Club de Metz grâce à Bruno Rodriguez, son 13e but de la saison.
Alors là, pour bien remettre les choses dans leur contexte, Metz revient à hauteur d'Auxerre, puisque les Lensois sont en train de faire un match nul sur la pelouse d'Auxerre.
C'est ça, vous avez résumé la situation. Metz a l'obligation de gagner, ce qui n'est pas le cas de Lens.
Ce qui est génial, c'est que déjà l'avant-match nous réserve une superbe soirée, mais le scénario, effectivement, de ces deux matchs à distance est fantastique, parce qu'à ce moment-là, Metz se croit vraiment virtuellement champion.
Geoffroy.
Non, mais il se passe quelque chose d'assez rare. C'est qu'un titre de champion de France va se jouer à la différence de but. Et ça, c'est pas arrivé depuis un duel Monaco-Bordeaux en 84, si ma mémoire est bonne. Et pour les plus vieux, il y a eu en 62 le fameux épisode entre le Reims et les Racing. Mais c'est serré comme cela n'a jamais été, en fait.
Alors Saint-Symphorien est plein, commence à y croire car le but de l'attaquant lorrain permet à Metz de revenir à hauteur de Lens au classement désormais, vous le disiez Geoffroy, seulement devancé par les nordistes à la différence de but. Les sang et or ne le savent pas, à l'époque les premiers téléphones portables ne rentraient pas dans les poches et encore moins sur les bandes touches Lensois. Lens qui n'a même pas eu le temps d'apprendre que Rodriguez a marqué, que la JA part à l'attaque.
Une touche à jouer en faveur des Bourguignons. C'est effectué par Agbo sur Lachuer qui se débarrasse de Marc-Vivien Fouet qui trouve Sabri Lamouchi. Peut-être la première occasion. Oh, Serroise. Et c'est l'ouverture du score ici à la Baie des Champs. Dès la 13e minute, Sabri Lamouchi sur la première frappe en direction des buts de Guillaume Varmuz. Pour l'instant, Lens n'est pas champion de France. C'est Metz qui est champion de France.
Lens plombé par le but de Lamouchi est deuxième avec 67 unités à ce moment-là de la soirée. Les Messins comptent 68 points en tête de D1 et sont virtuellement champions.
Metz est champion à ce moment-là. Et c'est vrai que les Lensois ont encore pas digéré une semaine avant leur défaite en finale de Coupe de France où ils perdent contre le PSG. D'ailleurs, entre parenthèses, le PSG ne se mêle absolument pas à la lutte pour les 4 premières places. Ils vont finir, je crois, 8e cette saison. Mais ils feront le doublé des coupes, Coupe de la Ligue, Coupe de France. Donc Lens...
Les deux premières finales jouées au Stade de France.
C'est ça. Et Lens, donc, reste sur un échec, se fait malmener par une équipe qui est revancharde, parce que la première journée opposait donc Lens à Auxerre. Et Lens avait donné une leçon en gagnant 3-0 à l'époque. Donc là, il y a Lamouchi. Et puis, il y a quand même, dans ce début de match, un Charbonnier qui réalise plein de prouesses, mais qui se blesse.
Il a mal au dos.
Qui se fait mal. Et il y a plusieurs fois le soigneur qui vient, il va essayer de tenir. Et puis finalement, il va être remplacé très vite dans ce match par Fabien Coll.
Ouais, et puis c'est une équipe d'Auxerre, pour donner un peu la force de cette équipe-là, qui aura, elle, plusieurs éléments dans l'équipe de France 98 de Jacquet, vainqueur de la Coupe du Monde. Lamouchi ne sera finalement pas dans la liste, mais il y avait Bernard Diomède, il y avait Stéphane Guivarch. Voilà, il y avait beaucoup de talent à Auxerre.
Ce jour-là, le stade de la Baie des Champs, c'est Bollard-Duisse. Il y a
Mais on l'a entendu au début de la
voilà, on n'entend que les supporters lensois, il y a un désenchantement quand même. Mais malgré tout, les supporters lensois vont se remettre à encourager leur équipe. Mais il faut se dire qu'à ce moment-là, du scénario de ce duel incroyable, il y a presque une forme de logique. Parce que l'équipe qui est la plus légitime en tête du championnat depuis le début de la saison, c'est Metz. Qui d'ailleurs a fait quatrième la saison précédente, cinquième celle d'avant. On avait découvert l'épopée Messine avec les pépés flingueurs Pouget Pires. Et vous vous rappelez de l'improbable brésilien Isaias qui avait ce pied gauche de fou. Et donc, de voir Metz sacré, quelque part, il y a une forme de logique. Mais Lens est sur un élan.
Et Metz était champion d'hiver.
Et champion, oui, absolument.
Ils ont été en tête du classement à mi-saison. Ils ont été leaders 16 journées en tout.
Et Lens fait quelque chose, parce que c'est souvent au sprint que ça se gagne les titres, en tout cas à cette période-là. Lens est sur un élan incroyable, puisqu'ils ont gagné les 7 matchs précédents. Et ils vont prendre, au total, sur les 12 dernières journées, ils vont prendre 31 points. C'est-à-dire qu'ils vont reprendre, je crois, 6 ou 8 points au Messin, qui fait qu'au bout du compte, le public à la Belgian va recommencer à pousser ses joueurs et va se passer ce qui va arriver. Est-ce que vous allez nous éclairer ?
Pas tout de suite. Attendez, Geoffroy. Lens et Daniel Leclerc ne veulent pas savoir ce qui se passe à Metz. Joël Muller, l'entraîneur messin, ne veut lui non plus rien savoir de la soirée lensoise en Bourgogne. Superstition de footballeur torpillé par le boss messin.
À noter, Denis, que Joël Muller sait ce qui se passe actuellement à Auxerre. Au départ, Joël Muller ne voulait pas être informé, mais c'était tellement important. Patrick Razurel n'a pas pu s'empêcher de lui glisser dans les oreilles que Auxerre avait marqué.
C'est incroyable d'entendre ça aujourd'hui.
L'inimitable compteur Vincent Alix, oui, sur le bord du terrain à Metz ce soir-là. Le futur, il n'était pas fantôme encore. Dans ces dernières semaines, pré-fantôme de Clairefontaine.
C'est quand même incroyable de se dire qu'à l'époque, aujourd'hui on voit sur les bancs de touche certains entraîneurs adjoints qui sont dans la tribune, qui font des séances vidéo à la mi-temps, qui ont des oreillettes. Là, ne savait même pas ce qui se passait avant qu'on vienne glisser à l'oreille de Joël Muller que Lens était mené à Auxerre.
C'est le foot d'avant, vraiment. Vraiment, parce qu'aujourd'hui, on n'imagine même pas un duel au sommet entre Lens et Metz. Il y a eu l'épisode Montpellier en 2012, mais on a bien compris.
Mais là, deux équipes qui ne sont pas championnes de France dans leur histoire.
C'est
mais avec
énorme.
Deux entraîneurs cultes. Hein. On a Giroud qui est là depuis 1980. On a Joël Muller.
Il n'est pas encore culte, Joël Muller. Il va le devenir. Ouais, c'est l'année où il va le devenir, en fait.
Il a été champion il y a 2 ans avant, hein, quand même, hein, Giroud. 2 ans avant.
Oui, mais Muller.
Non, Muller, mais il est là depuis longtemps. C'est une institution aussi à Metz. Ça fait plus de 10 ans qu'il est à la tête de cette équipe. Et il y a aussi, il y a ce scénario, mais il y a Smisser qui a marqué quand même en début de match, avant le but de la Mouchy, un but refusé hors-jeu. Il y a Guivard juste après qui peut marquer le deuxième but. Donc il peut y avoir 2-0, ça peut être plié pour Lens.
Mais vous y étiez, David.
Ben, on s'en souvient.
Le coach messin est au courant que son club est en tête, mais il n'a, semble-t-il, rien laissé transparaître à la mi-temps. L'époque est différente il y a 20 ans. Même pour des matchs censés débuter en même temps, même un soir de dernière journée, on est moins à cheval sur les horaires. On est comme Stéphane Guy d'ailleurs. On a repris sur tous les terrains depuis quelques minutes, mais pas encore, à Auxerre. Il paraît que la ponctualité est l'exactitude des rois. Au moment où on débute le second acte, à la D1 à Metz pour Souverain, à l'Abbé Deschamps, Lens doit marquer pour se coiffer de la couronne du champion.
Bon ballon de DU sur cet appel de Johan Lachaud. L'organisation lensoise après 7 minutes et 37 secondes dans cette deuxième période. C'est le défenseur latéral Johan Lachaud, privé de finale de Coupe de France, qui est en train d'offrir le titre de champion de France en 101.
Geoffroy, c'est ce que vous disiez tout à l'heure et ce que vous disiez aussi Stéphane. On parlait de ces équipes qui avaient énormément de joueurs formés au club. Yann Lachor, c'est un des meilleurs exemples.
Oui, mais Lens était une des places fortes de la formation française.
C'est un des symboles forts parce que c'est le nouveau venu. Yann Lachor, 10 mois avant, personne ne le connaissait. Il perd cette saison-là et il marque le but qui va offrir le titre de champion à Lens.
Mais quand vous regardez l'effectif juste de Lensois, Varmus, Sicora, Wallem, etc. Ça symbolise Lens. Voilà, c'est une équipe maison.
Après, c'est vraiment l'invité surprise. Il faut se replacer le contexte. La saison d'avant, Lens lutte pour son maintien. Fait venir
Roger Lemaire,
avec comme adjoint Daniel Leclerc. Ils se sauvent assez facilement, mais bon, ça a été quand même une opération commando pour se sauver. Et là, ils entament cette saison 97-98 avec non plus Roger Lemaire qui a été appelé par Aimé Jacquet parce qu'il y a la Coupe du Monde, comme adjoint de Jacquet. Et c'est Daniel Leclerc qui n'a pas d'expérience, qui arrive, le druide, et qui va... à poser sa griffe d'un football qui va plaire à tout le monde. Parce que cette équipe de Lens, elle va faire l'unanimité pour tous les observateurs, tous les passionnés de foot. C'est un jeu porté vers l'avant, c'est très rigoureux derrière, mais ça joue vers l'avant avec des flèches. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça rappelle peut-être le style de jeu de Lille cette année. C'est-à-dire costaud derrière, et puis alors boum, ça fuse devant. Et ce football-là, eh ben, ça va plaire. Et puis comme en plus ce sera une année avec quand même des surprises, parce que c'est l'invité surprise, ça ne sera pas facile quand même toute la saison, mais ça sera en tout cas très séduisant comme jeu.
C'est à 4-3-3, hein, Lens, oui. 4-3-3 avec Drobnjak. Ça dit pas grand-chose aux jeunes, mais c'était vraiment un des très très bons attaquants de Ligue 1 qui jouait à Bastia la saison d'avant. Il est marqué 15 buts.
Qui avait failli signer à Marseille.
Ouais, qui était un vrai costaud.
C'est lui qui relance le championnat en mettant un doublé sur la pelouse de Metz quelques semaines avant.
Exactement. Et puis à droite, il y a Smisser, donc qui vient de faire la finale de l'Euro de 96 avec la République tchèque. Et puis à gauche, l'explosion de Tony Vérel, qui va être bientôt l'un des plus gros transferts du football français.
Et Pierre Fanfan aussi, qui arrivait de Dunkerque. Ouais. Il y avait Vanuéloa aussi, qui avait été prêté.
Et Philippe Brunel, qui était le joueur offensif, qui n'était pas souvent titulaire, mais qui rentrait systématiquement à tous les matchs, et puis qui était un peu le polyvalent, qui jouait à tous les postes.
Wilson Oruma, sacré joueur. Ziani.
Stéphane Ziani, le meilleur passeur pratiquement du championnat.
Qui avait réalisé un match énorme à Auxerre,
D'ailleurs, juste pour la petite histoire, Ziani, en début de saison, j'aime bien les petites histoires. Non, Ziani, en début de saison, on parle de lui, et il y a Tottenham qui offre 30 millions de francs à l'époque, donc à peine 5-6 millions d'euros. Et Ziani prend ça à la rigolade, veut rester à Lens. Il dit, ils veulent sûrement me prendre pour mon jeu de tête, parce qu'il était tout petit, Ziani. Et puis finalement, il va rester à Lens, et heureusement pour Lens.
Geoffroy.
Bon, moi j'ai une mention spéciale, évidemment, une pensée spéciale, toujours aujourd'hui, pour Marc Vigenfouet.
Bien sûr.
Voilà, vous avez plombé le...
Non, mais voilà.
Non, mais qui était...
Qui va décéder sur un terrain en Coupe des Confédérations quelques saisons plus tard, et qui était... C'était sa première année. C'était l'année où il a démarré en D1, on l'entend d'ailleurs dans le commentaire tout à l'heure.
Et après, il sera champion avec Lyon.
Avec Lyon.
Pour sa première saison, je crois, à Lyon. Puis, effectivement, il y aura ce décès à Lyon un an plus tard, lors d'un match du Cameroun.
Une semaine avant, Lens a déjà raté une occasion, messieurs, de ranger un titre dans sa salle des trophées. En finale de Coupe de France, les nordistes ont subi la loi du PSG et Lachor n'était pas là.
Oui, donc c'est une vraie revanche pour lui. Peut-être qu'il a été moins traumatisé que ceux qui étaient là, en tout cas pour l'entame de match. Mais Lachor, c'est aussi symbolique. C'est ça qui est génial dans les titres de champion. On retient le scénario, mais on retient aussi des buteurs absurdes, quoi. C'est-à-dire qu'on avait parlé de Gouffran. Non, mais
le mot absurde est tout à fait adapté.
En 2009, c'est Gouffran qui marque pour Bordeaux alors qu'il avait fait une saison plutôt ratée. C'est Lachor, on l'attendait pas comme buteur.
Mais c'est ça qui est génial, David. C'est la légende. Justement, tout le monde participe à une épopée comme celle-là, parce que on peut dire qu'un titre de champion pour un club comme Lens, c'est vraiment une épopée.
Et comme une revanche, c'est lui à 22 ans et 36 matchs de D1 dans les jambes qui donne pour l'instant le titre à Lens. Le gamin sorti du centre de formation un an plus tôt marque le but qui redonne la première place aux Lensois. À la différence de but, les 100 et or sont en tête à 40 minutes de la fin du championnat.
L'égalisation n'est que justice sur ce qu'on a montré. Maintenant, il ne faut pas se disperser. Il reste 35 minutes, je crois qu'il faut surtout dans la construction essayer de garder le ballon et profiter des espaces à fond et se montrer un peu plus déterminé devant, mais surtout pas se disperser et ne pas perdre le ballon trop vite.
Stéphane, est-ce que vous avez... Je crois que vous avez reconnu.
Ah, bien sûr. Lui aussi, c'est un grand personnage du foot français qui est pas assez connu à mon avis. C'est François Brisson.
Exactement.
Qui a été champion olympique avec l'équipe de France à Los Angeles en 84 comme joueur et qui est le nouvel adjoint de Daniel Leclerc. Et alors, c'est un personnage extraordinaire, Brisson. Passer une soirée avec lui, il va vous raconter le foot, mais alors de façon... Et là, il est dans sa passion, il est dans...
Il est avec Paga.
Il est avec Paga, ouais.
Déjà.
Ouais, bien sûr. Bah, Paga, c'est sa troisième saison, quatrième saison avec Canal.
L'adjoint de Daniel Leclerc est désormais plus serein, mais au serre-pouce, Lens y croit. Le match est terminé à Metz. Les Lorrains ont battu Lyon. Désormais, les Lensois ne peuvent plus compter que sur eux. Il faut tenir pour être sacré.
Ils y croient, ces supporters lensois, pour le moment. Ils ont raison, pour le moment Lens est champion. Il reste 5 minutes à tenir, un petit peu plus en comptant les arrêts de jeu. Imaginez ce suspense incroyable. Un but aux Auxerrois ruine complètement les chances lensoises dans ce match. Voilà toutes les données de ces derniers instants de ce match.
Vous avez revu le match, messieurs, avant de faire cette émission. On sent Auxerre qui pousse, mais qui pousse vraiment les Lensois qui, petit à petit, s'arc-boutent sur leur but pour continuer à préserver ce match nul qui leur donne le titre.
Ah oui, oui, et puis il y a de l'intensité, il y a de l'angoisse. Moi, j'ai l'image quand même d'un Gervais Martel en train de fumer sa clope.
Ça, c'est autre temps.
On n'imaginerait plus du tout un président, mais on a vu les entraîneurs aussi fumer leur clope. C'est tellement intense, c'est tellement angoissant que, ben voilà, on espère que le chrono va vite tourner et que ça va vite se finir.
Geoffroy.
Moi, je suis plein de nostalgie pour cette époque-là. Non pas parce que je n'aime pas ce que le foot est devenu, mais j'ai le sentiment qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup plus de fraîcheur. Et donc, effectivement, on a revu le match pour les besoins de votre belle émission, Paul. Et il y a, à la fin du match, Paga, le titre de Lens est déjà scellé, et Paga va interviewer André Lannoy, qui est un gardien de but historique du RC Lens, qui était celui de la finale de 75, qui a été perdu par les Verts. Face aux Verts, pardon. À l'époque où Lens avait beaucoup de mal à se stabiliser dans l'élite. Et en fait, Lannoy a les larmes aux yeux, et tout le monde a les larmes aux yeux. Et finalement, cette émotion, elle est contagieuse. Et même moi, je me suis surpris, plus de 20 ans après, à avoir les larmes aux yeux.
On voit que vous êtes ému quand vous en parlez,
non, mais c'est
Stéphane.
Vrai.
Non, mais c'est sûr que c'est un club mythique, Lens. Un club mythique parce que c'est le club d'une région qui a beaucoup souffert. On est dans des années où on est à la fin des très grandes crises vécues par le Nord. C'est un club qui est porté par ses supporters. Aujourd'hui, c'est encore vrai, mais ça l'était peut-être plus encore à l'époque dans un bollard qui n'avait pas encore été rénové, donc qui contenait 50 000 personnes les grands soirs. Il vient d'être rénové juste là pour la Coupe du Monde 98, avec ce public extraordinaire. C'est le football populaire. C'est vrai que c'est un football d'antan. C'est un club qui a des moyens quand même, mine de rien, hein, qui arrive à faire venir qui réussit dans ces années-là encore de beaux transferts, même si en début de saison, personne n'aurait mis un copec sur le sacre du Racing.
C'est ça aussi c'est ça qui plaît, c'est que ça a été quand même une saison où ils se retrouvent dixième à 10 points au bout de 7-8 journées. Ils sont à 5 points de retard à mi-saison aussi. Donc on ne les attend pas. À chaque fois, on se dit « Oh, c'est une belle histoire, mais ça ne va pas durer. Il y a Marseille, il y a Monaco. » Ben non, les autres vont s'écrouler et ça va être un mano à mano.
Ils sont portés, il y avait des personnages dans le football de l'époque. C'est-à-dire que Daniel Leclerc, ce n'est pas un entraîneur comme les autres. Il n'a pas eu une énorme carrière d'entraîneur, mais tout le monde se souvient. Il est surnommé le druide et puis il a une histoire incroyable. Il était...
Les années 70, c'était lui aussi le...
Et c'était un grand joueur du club, mais qui a eu une reconversion très compliquée. Après, Gervais Martel, c'est pareil, c'est à l'époque un jeune président qui, depuis des années et des années, porte le destin de ce club. Il y a des joueurs emblématiques, Wallem, Sicora, Déhu, et puis Ziani, Drobniak. Il y a des joueurs emblématiques, il y a des personnages dans lesquels on peut s'incarner.
Geoffroy.
Je veux juste rebondir sur ce qu'a dit Stéphane, sur le fait qu'on n'aurait pas misé un copec sur le titre de Lens. Donc, je vais vous dire à quel point c'est vrai, puisqu'en début de saison, à l'époque, j'étais au journal du dimanche, et j'ai fait un pari avec l'un de mes confrères, dont je tairai le nom, et j'ai mis 500 francs sur le FC Metz. En début de saison, il fallait quand même oser.
500 francs à l'époque,
j'étais pas bon pour nous. Il fallait
oser. 500 francs à l'époque, et avec votre salaire, c'était une somme.
Et c'était, si Metz était champion, je gagnais 1000 francs. Et je perdais 500 si Metz ne l'était pas.
De contre.
Et donc, la dernière journée, j'ai encore l'espoir de rentrer dans mes fonds et en fait, non, pas du tout.
Rendez-lui l'argent. Mais par contre, non, blague à part, Metz, on peut le sentir venir. Que Geoffroy mise, c'est un pari osé, mais c'est une équipe quand même qui était portée par le talent notamment de Pires, qui lui était dans les 22 de Jacquet. Donc c'est une équipe qu'on voit plus venir que Lens, qui effectivement s'est sauvée l'année d'avant un peu miraculeusement.
Le petit David. Bémol, c'est que ces deux équipes qui luttent pour le titre ont comme meilleur buteur, donc Drobniak, 14 buts en fin de saison, et Rodriguez, avec Metz, 13 buts. Ça paraît incroyable qu'une équipe soit sacrée championne, avec aussi un meilleur buteur qui n'en est qu'à 14. Le meilleur buteur, c'était Guy Varche à l'époque, avec 21 buts. C'est déjà plus dans les standards. Mais 14 buts, ça veut dire... Bon, c'était une saison à 34 journées.
Voilà. Hein. Et c'est aussi la faillite des grandes écuries françaises. Oui. Monaco, Marseille, Paris, qui ne sont pas au rendez-vous en championnat.
Monaco est champion l'année précédente et ils n'assument pas leur titre, plombé par la Ligue des Champions. T'as quand même beaucoup de mal toujours en France à mener de front les deux compétitions. Et Marseille est avec Roland Courbis qui vient d'arriver au début d'une opération de résurgence, on va dire.
Alors, un partout à la BD des champs, Auxerre pousse, mais Lens s'arrache. Jamais l'abnégation de Tony Vérel, Stéphane Ziani ou Marc-Vivien Foé, dont vous parliez, messieurs, n'aurait été aussi précieuse. Le temps file, minute trop longue dans un stade trop petit pour toute la folie lensoise.
Éloi pour la contre-attaque, Éloi vient de passer.
C'est fini.
Et champion de France, Lens est
champion de France.
On entend, on est à la Baie des Champs, on a l'impression d'être à Bollard, c'est ce que vous disiez.
Mais
tout
bien
à l'heure,
sûr, mais d'ailleurs, le fameux Cop Lensois qui fait la différence, qu'en fait, il n'est pas dans une tribune, derrière le but, mais dans une des tribunes latérales. Et à la Baie des Champs ce soir-là, c'est pareil. En fait, les supporters Lensois ont totalement investi une tribune latérale de la Baie des Champs, et on n'entend que.
Jusque dans le virage.
Absolument.
Il y a aussi l'ovation des supporters auxerrois, hein, très franchement, hein, parce qu'il n'y a pas que les Lensois qui encouragent. À la fin, ils sont tous applaudis. C'est tout le stade de la Baie des Champs qui applaudit. C'est le seul match nul à l'extérieur de Lens cette saison.
Ah bon ?
Absolument. Ouais. C'était soit des défaites, soit... Il faut savoir que Lens a quand même gagné, je regardais, à Marseille, à Monaco, à Lyon et à Metz cette année-là. C'est fort.
C'est aussi le début d'une aventure. Lens va surfer sur quelque chose dans le foot français pendant quelques années. L'année suivante, ils vont donc jouer la Ligue des Champions. Lens, ils vont être en demi-finale de l'Europa League, de la Coupe de l'UEFA comme on disait à l'époque en 2000. Ils vont encore jouer le titre en 2002. Et là encore, c'est quelque part une séquence nostalgie. Moi, je suis un peu en manque de cette époque où des clubs comme Lens pouvaient jouer le titre.
La folie s'empare de Lens. Hervé Arsène, historique de la Maison Sang et Or, est lui aussi pris par l'émotion.
Ça a été une nuit de folie. Hein. Ouais. Je pense que c'est l'une des plus grandes nuits d'un champion de France. C'est-à-dire que ils savaient, ils ont eu de préconscience, c'était un moment historique. Et encore une fois, Lens, c'est populaire. C'est du popu, Lens. Et ça va se manifester dans les heures qui vont suivre.
Les mots n'ont plus d'importance. Seule l'émotion d'un premier titre compte. Celle de Daniel Leclerc, vous en parliez, est cachée par des mains rendues moites par le stress d'une deuxième mi-temps trop longue. Le druide avait repris Lens en début de saison et a trouvé la potion magique. Il communie avec son public.
Merci. Depuis le 2 août, ils sont avec nous. Aujourd'hui, ils sont avec nous. Et puis, on a hâte de les rejoindre.
C'est énorme pour lui aussi. On sent qu'il n'ose pas s'épancher.
C'est du Daniel Leclerc.
Il ne sait pas, il est tout en... On parlait tout à l'heure je ne sais plus quel entraîneur, je crois que c'est Laurent Blanc, très en retenue. Mais là, c'est plus de la retenue, là, c'est de la pudeur à l'état pur.
C'est incroyable quand même ce qu'il a réussi à faire avec cette équipe lensoise à ce moment-là, Stéphane.
Oui, il a bien saisi les forces sans doute de son groupe. Puis je pense que c'est quelqu'un de... il est quasiment dans le spiritisme, Daniel Leclerc. Quand vous l'entendez parler, j'aurais adoré assister à sa causerie avant ce match-là, parce que ça devait être quelque chose d'assez phénoménal.
Il a su imposer aussi son style. C'était pas gagné. On disait que c'est sa première année en tant que numéro 1. Il succédait à Roger Lemaire. Il a eu l'idée de prendre François Brisson aussi comme adjoint. Il est toujours resté dans ce fameux 4-3-3 qui était plaisant. Lens a quand même été leader à partir de la 30e journée. Il y en avait 34. Donc c'est vraiment sur la fin qu'ils ont réussi à coiffer tout le monde. Et puis le retour triomphal dans le Nord, 30 000 personnes qui sont présentes à 3h du matin. Dans la rue. Là, on ne parle pas de la rue. Dans la rue, c'était effectivement la folie. Mais dans le stade, 30 000 personnes.
Ce qu'on a fait ensuite à Bordeaux l'année suivante, quand les Bordelais sont revenus de Paris champions et qu'on avait ouvert le parc Lescure, Geoffroy.
Juste un petit mot sur Daniel Leclerc, qui a eu, lui, une très très riche carrière, et pas seulement de joueur et pas seulement à Lens. Il a été champion de France avec Marseille, par exemple, Leclerc, dans les grandes années du Marseille de Marcel Leclerc, un autre...
Aucun lien de
parenté.
Et je crois qu'il est encore en activité. Et il s'occupe de Douai, je crois, dans une petite division. Hein. Mais il lâchera jamais. C'est un homme de terrain. Il peut pas être, c'est pas un directeur sportif. Il a besoin d'être sur le banc et à sentir comme ça même le foot amateur. Enfin, il baigne dedans.
Il est dans l'humain.
Autre homme de terrain, Jean-Guy Wallem à l'époque, 31 ans, dont 16 passés à Lens, est hagard, perdu entre le bonheur d'un titre et l'analyse d'un match dont le contenu ne compte plus vraiment.
J'ai fait tellement d'efforts dans ce match que si on avait perdu le titre ce soir, je crois que ça n'aurait pas été mérité parce qu'on avait en fait une bonne prestation.
Scène de liesse à la Baie des Champs, même les Auxerrois sont restés dans la Baie des Champs pour célébrer le club de Gervais Martel, président qui attendait un titre depuis trop longtemps.
Vous ne pouvez pas savoir ce que peut ressentir. 10 ans de travail, mais aussi là, un club formidable, des gens formidables autour. Les supporters, ils nous ont suivis, même dans les moments difficiles. C'est une récompense pour cette région qui méritait ce titre, une région formidable. Je suis vraiment très content pour moi. Ça va être une fiesta extraordinaire.
Là aussi, la voix tremble de Gervais Martel.
Mais pour lui, c'est aussi une récompense, j'ai envie de dire, incroyable. Parce que Gervais Martel, il est vraiment rentré, j'ai envie de dire, dans les cercles de pouvoir du RC Lens 10 ans avant. Et donc, il a connu, en tant que président, la descente en 88-89, une saison terrible où Lens bat des records de points en négatif. Et j'ai envie de dire, c'est lui qui va porter le club, qui va le faire remonter en D1. Et c'est vraiment là, pour le coup, presque une œuvre personnelle. Même si on a parlé de Daniel Leclerc, on a parlé de la formation lensoise, etc. Mais c'est sa volonté qui fait que Lens en est là aujourd'hui. Donc c'est, ce soir-là, c'est vraiment quelque part sa victoire.
Et puis on n'est pas à l'époque des présidents salariés. Gervais Martel, c'est l'époque où des hommes, Nicolin à Montpellier déjà, Gervais Martel à Lens, incarnent, c'est un entrepreneur local qui porte le club, qui l'incarne. Et qu'il l'incarne parce que c'est un enfant aussi de la région. On le sent tout de suite dans ses premiers mots. Il pense aux habitants de la région lensoise.
Et on peut rajouter d'ailleurs Carlo Molinari à Metz, qui est donc tout à fait dans le même créneau.
D'ailleurs, on pourrait faire quasiment la même émission en parlant du FC Metz. Au lieu de Jean-Guy Wallem, on parlerait de Sylvain Castendush. Au lieu de Daniel Leclerc, on parlerait de Joël Muller. Et au lieu de Jarry Martel, on parlerait de Carlo Molinari, parce que c'est des histoires très, très similaire.
Oui, mais c'est le canal football classique et non pas la fabrique de l'histoire aujourd'hui.
Et c'est un type qui joue sur 5 buts d'écart quand même aussi. 5 buts d'écart. Et ça, Molinari, il ne l'a jamais digéré.
Justement, David, à 250 km de là, c'est la fin des illusions messines. Joël Muller, l'entraîneur, a laissé de côté la superstition pour écouter la fin du match de Lens à Auxerre.
On savait qu'avant le match, un match nul de Lens leur suffisait. On a espéré, on a cru, on a rêvé. Et puis, malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc, je voudrais féliciter tous mes joueurs et le public merveilleux ce soir qui nous a soutenus avant le match, pendant et après. Et puis, féliciter également l'équipe de Lens et son entraîneur et tous ses dirigeants pour ce titre de champion. On est battu au Golaverache, le scénario le plus dur et le plus abominable. Et c'est aussi le football.
5 buts, voilà à quoi la saison aura tenu. 5 buts qui offrent à Lens son premier titre de champion. 5 buts qui donne à Eric Sikora, historique aussi de la Maison Sang et Or, le trophée de toute une carrière.
C'est vrai que ça fait 18 ans que je suis au club, c'est ma 13e année en pro. Enfin, c'est fabuleux, c'est le plus beau jour de ma vie. On a échoué de peu en finale de la Coupe de France. Et gagner ce soir, ça efface tout.
C'est immense d'être champion pour la première fois après 18 ans passés dans un club pour 5 buts.
Bah c'est quelque
5
chose
buts,
que
c'est quoi dans 18 ans de
c'est
carrière
rien, mais c'est quelque chose que je vais jamais connaître. Donc j'ai de la joie, beaucoup de joie par procuration pour eux ce soir et tous ceux qui ont connu ce genre de joie.
Ils ont connu Wallem, Sikora, ils ont connu Lens en D2.
Ils ont tout connu, toutes les galères. Et donc il y a ce côté rédemption, récompense, qui a perdu un peu de sens aujourd'hui avec notre ère du zapping. Et on va dire de la superficialité. Et là, c'est quelque chose de vraiment de très profond. Je vais juste, pour l'anecdote, on va corriger Joël Muller qui ne perd pas le titre au Golaverage, mais la différence de but, c'est pas tout à fait pareil.
David,
la petite nuance. Alors, c'est vrai que ça se joue à rien, égalité de points, 5 buts d'écart. Malgré tout, quand on regarde, je parlais tout à l'heure des victoires à l'extérieur de Lens, Lens a une victoire de plus que Metz seulement. Mais Metz peut avoir beaucoup de regrets sur cette saison d'avoir fait trop de matchs nuls.
Stéphane et ensuite Geoffroy, ça fait un beau champion.
Les dynamiques se croisent en fait. C'est-à-dire que Metz a toujours été en haut, puis a décliné très lentement. Et puis Lens est parti de loin, mais. Alors c'est le compteur de La Fontaine, c'est-à-dire que rien ne sert de
courir,
de partir à point, il faut courir.
Geoffroy.
Là, évidemment, ce soir-là, on célèbre, parce que Lens, c'est le champion de toute la France. En fait, tout le monde est content que
ça
c'est
vrai. On le voit à l'Abbé des Champs avec
les supporters messins. Et je pense que même les messins, quelque part, au bout du compte, parce que c'est Lens, prennent cette déception avec, on va dire, philosophie et recul. Mais ce qu'on sait pas, c'est qu'il y a des destins qui sont en train de se graver ce soir-là. Il y a 3 hommes qui vont vivre des moments terribles parce qu'ils perdent le titre, là, avec Metz à la dernière journée. Et dans 4 ans, c'est rien, ils vont perdre le titre à la dernière journée avec Lens contre Lyon. Et c'est Joël Muller, c'est
Bruno Rodriguez
et Jocelyn Blanchard.
Il est excellent, Geoffroy Garretier, parce qu'en plus d'avoir toute la sagesse qu'il nous donne, il tease le prochain numéro.
Il parle sur 4 ans, mais l'année d'après, juste après le titre de Lens, l'année d'après, Lens finit 6e et Metz 10e. Et Metz perd la finale de la Coupe de Ligue contre Lens. Il se retrouve encore la malédiction pour les Messins. Ça a été plus dur. La chute a été quand même plus dure pour les Messins.
Mais t'as jamais retrouvé le niveau de cette époque-là.
En tout cas, la fête est totale dans le vestiaire lensois à l'Abbé des Champs.
Attends,
un dernier mot, messieurs, avant de nous quitter. Vous le placez où, ce titre, dans la hiérarchie des championnats? Si vous deviez faire un classement, si vous deviez donner une catégorie, Geoffroy, par exemple.
C'est le plus beau du foot d'avant. Il y a eu une résurgence en 2012 avec Montpellier. Mais encore une fois, ces émotions-là, ces odeurs-là, cette façon de considérer le foot et j'ai envie de dire derrière la vie, j'ai bien peur qu'on ne le retrouve plus.
Stéphane.
Non mais 98, c'est la grande année du football français à tout point de vue. Et c'était une des facettes de cette superbe année qu'on a vécue tous ensemble.
David. Ouais, c'est ça, moi je le mets au même niveau que Montpellier plus récemment. Souvent, quand une équipe gagne plusieurs fois le titre, on retient la domination sur plusieurs saisons. Là, ça s'est produit une fois, c'est la seule fois que Lens est champion. Donc voilà, c'est beau, c'est inattendu, et puis surtout c'est frais, et puis c'était surtout l'unanimité. Là, pour le coup, il n'y avait pas les anti-Lensois. Non, non, toute la France était pour Lens.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous pour retracer le fil de ce duel à distance entre Lens et Metz en 1998. Merci donc d'avoir assisté à ce Canal Football Classique. Merci à Faisal Berkani et Lucas Bussutil qui ont préparé cette émission, à Laurence Madja à la technique, et on se retrouve évidemment très vite pour un nouvel épisode de Canal Football Classique.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.